La bibliothèque orbitale, épisode 16. Résumé de l'épisode précédent, la situation est caniculaire et même orageuse en fin de journée. Parti en vacances début août avec femme et enfants, c'est seul que Pitou, l'intrépide gladiateur cosmique, est finalement arrivé sur la Côte d'Azur. Son fils, Kevin Pitou, a décidé que ça allait bien 5 minutes ces histoires d'apocalypse nucléaire à la con, et il est parti en stop rejoindre une bande de potes qui font du camping dans l'Ardèche. Quant à Madame Pitou, elle a demandé à son époux de la déposer chez ses parents, dans la banlieue grenobloise, où elle pourra passer le reste de ses vacances à bronzer plutôt qu'à apprendre le maniement du lance-flammes ou du bazooka. Et c'est ainsi que Pitou se retrouve seul face à la mer, en treillis et en tongs, sur une plage méditerranéenne bondée d'haoutiens en short et recuits au soleil, lorsque soudain... Pendant ce temps, à bord d'une station spatiale russe abandonnée, le narrateur, le cul dans une bassine de piña colada, se demande si le visionnage à haute dose de science-fiction post-apocalyptique italienne peut être à l'origine du douloureux coup de soleil qui donne à son visage ce vilain teint d'écrevisse bouillie. Sergio Martino, Enzo Castellari, Antonio Margheriti, Joe D'Amato, Lucio Fulci, Ruggero Deodato, autant de réalisateurs qui ont marqué la série B italienne, autant de réalisateurs qui se sont essayés au début des années 80 à la SF post-apocalyptique et qui s'y sont plus ou moins cassés les dents. Dans le meilleur des cas, on obtient des films un peu crétins et testostéronés, qui assurent le spectacle en collectionnant explosions et carambolages. Et le reste du temps, on se retrouve avec des machins embarrassants qui font de vilaines tâches de nanar dans la filmographie de leurs auteurs. Imaginez donc le résultat quand on confie ce genre de projet à un tâcheron et qu'on le charge de réaliser un film avec un budget de misère, des acteurs qui n'en sont pas, et un scénario gribouillé sur un coin de serviette en papier entre le café et l'addition. Peut-on trouver dans le cinéma bis italien plus mauvais réalisateur que Bruno Mattei? Oui, peut-être, en cherchant beaucoup, mais là on n'a pas le temps. Bruno Mattei, dissimulé le plus souvent sous un pseudo, le plus fréquent étant Vincent Down, a enchaîné pendant 30 ans un impressionnant nombre de navets, une cinquantaine au total, parmi lesquels deux générations de critiques ciné se sont évertuées à trouver un quelconque intérêt, sans succès à ce jour. Des navrances érotiques que sont Caligula et Messaline ou Les Novices Libertines, jusqu'au film de zombies avec l'enfer des morts vivants, dont l'une des particularités est que les vivants y sont beaucoup plus cons que les morts, en passant par les puants Hôtel du Plaisir pour SS et KZ9 Camp d'Extermination, il n'y a strictement rien à sauver dans la filmographie de Bruno Mattei, ce qui ne l'a pas empêché de tourner jusqu'à sa disparition en 2007. Les Rats de Manhattan, son chef-d'œuvre post-apocalyptique, est sorti en 1984. Pas de cascade spectaculaire ici, le budget ne permettant même pas l'achat de quelques Renault 4 d'occasion. A la place, on suit un groupe de survivants d'un quelconque désastre atomique qui pensent avoir trouvé un endroit pouvant leur servir de refuge et qui vont devoir affronter des rats. Les rats en question, filmés par Mattei, ne semblent pourtant pas particulièrement agressifs. Ils trottinent débonnaires devant la caméra pendant que les actrices se mettent à hurler à chaque fois qu'elles les aperçoivent. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques du film, les actrices hurlent beaucoup. Lorsqu'elles aperçoivent un rat, donc, mais aussi quand elles découvrent un cadavre, ou une araignée, ou... En fait, elles se mettent à hurler dès qu'elles se trouvent dans le champ de la caméra. Visiblement, c'est l'unique consigne qu'elles ont reçue pendant le tournage. Les acteurs, eux, qui par définition ne sont pas des gonzesses, font preuve de beaucoup plus de retenue, faut pas déconner. À la place, ils s'engueulent virilement, prennent un air renfrogné et s'énervent pour un rien. Comme tout ce petit monde est affligé d'un QI situé quelque part entre ceux de l'éponge et de la palourde, leurs chances sont bien minces face aux rats. On ne s'étonnera donc pas de voir l'un de nos héros se saouler à mort avant de chuter dans une cave où les rats l'attendent, pendant que sa copine se retrouve coincée dans son sac de couchage et finit dévorée par les rongeurs qui se sont glissés à l'intérieur. Seul moment réussi du film, sa conclusion, au cours de laquelle les derniers survivants pensent voir arriver à leur secours un groupe d'humains qui s'avère être en fait des hommes rats, la nouvelle espèce appelée à régner sur la Terre. Si on en juge par la manière dont les vrais humains se sont débrouillés tout au long de ce film, ils ne devraient pas avoir beaucoup de mal à faire mieux. Bref, Les Rats de Manhattan est le genre de film qu'il est conseillé de ne voir ni seul, ni à jeun. Parmi les œuvres les plus hallucinantes que nous aura donné la SF italienne de cette époque, il faut accorder une place de choix à She, réalisé en 82 par l'israélien Avi Nesher. Très librement inspiré du roman de H. Rider Haggard, She raconte l'histoire de deux frères partis à la recherche de leur sœur disparue dans un monde post-apocalyptique. En tête d'affiche et dans le rôle-titre de She, on trouve la blonde Sandal Bergman, une ancienne danseuse dont le principal titre de gloire, pour ne pas dire le seul, est d'avoir tenu l'un des rôles principaux aux côtés d'Arnold Schwarzenegger dans Conan de John Milius. She emprunte autant à la science-fiction qu'à l'heroic fantasy, autre genre populaire en Italie à l'époque. On ne s'étonnera donc pas d'y croiser des chevaliers portant des casques de moto ou de football américain et chevauchant des mobilettes en guise de fougueux destriers. Bien qu'il ne dispose que d'un budget rachitique, cela n'a pas empêché Avi Nesher de se lancer dans une grande fresque héroïque. Le résultat est hallucinant de conneries. Au fil des pérégrinations de nos héros, nous allons croiser, entre autres, un messie au super-pouvoir, une armée de vampires en costard, un savant fou, un gardien de pont probablement recalé au casting du Sacré Graal des Monty Python, et un gros barbu en tutu rose. Le tout évidemment filmé n'importe comment et interprété par des acteurs dont le regard semble constamment supplier le spectateur de les sortir de là. Avertissement, quelle que soit la manière dont on aborde ce film, il ne semble pas concevable de pouvoir visionner She jusqu'au bout et sans garder le doigt en permanence sur la touche avance rapide, sans avoir recours cette fois aux drogues dures. Mais la SF post-apocalyptique italienne, c'est avant tout une collection de productions quelconques, tellement insipides qu'à peine le générique de fin achevé, on a déjà oublié les trois quarts du spectacle auquel on vient d'assister. C'est par exemple le cas des Exterminateurs de l'an 3000 de Giuliano Carmineo, sorti dans les salles en 83. Comment le qualifier autrement que de sous Mad Max 2, avec en guise de Mel Gibson, un acteur dont le look laisse supposer qu'il est sorti sans se changer d'une séance d'aérobic pour rejoindre directement le plateau de tournage. Les moments les moins anesthésiants de ce nanar sont directement repompés sur le film de George Miller, comme cette attaque d'un camion-citerne par une horde de véhicules customisés. Tout ça est à ce point médiocre qu'il n'y a à peu près rien à en dire. Dans le même genre, on trouve Le Chevalier du Monde Perdu, coproduction italo-américaine de 83 signée David Worth, avec dans le rôle principal Robert Ginty, acteur dont on se souvient aujourd'hui essentiellement pour sa participation à la série Les Têtes Brûlées, mais qui, dans les années 80, a fait carrière dans le film d'action burné, malgré son physique d'échalote confite. Ici, c'est davantage du côté du premier Mad Max que le réalisateur est allé chercher l'inspiration, en particulier lors de courses-poursuites filmées à ras du bitume. Le résultat serait presque pas mal, si notre héros ne chevauchait pas une moto dotée d'un ordinateur de bord s'exprimant avec la voix d'un télétoby. Au bout de 5 minutes, la tentation est déjà grande de zapper sur le film suivant. Une idée pas si mauvaise que ça, qui nous aurait ainsi évité de voir Donald Pleasance et Fred Williamson, pourtant le mec le plus cool du monde, souvenez-vous, tirer la tronche comme c'est pas permis, en attendant des jours meilleurs. Dans le genre pareil, mais en pire, il faut encore signaler les deux films commis par Anthony Richmond, alias Tonino Ricci, Rush, alias Rage, et Rage, alias Rush 2, c'est-à-dire si c'est simple de s'y retrouver entre les différentes éditions vidéo existantes de ces deux nanars, sortis respectivement en 83 et 84. Dans un cas comme dans l'autre, on suit les aventures d'un gentil guerrier, interprété par un certain Conrad Nichols, de son vrai nom Bruno Minitti, et qui un coup s'appelle Rush et l'autre Rage donc, mais qui à chaque fois se bat contre de méchants vilains et à la fin il les tue. Le tout ressemblant à une partie de paintball filmée de loin au caméscope. C'est complètement con, je vous l'accorde, mais c'était pourtant très tendance à l'époque. Histoire de vous donner une petite idée de l'ineptie dans laquelle baignent ces deux films, on notera que Rush se déroule dans un monde où les retombées radioactives ont transformé la planète en un vaste désert. Pourtant, toute la seconde moitié du film se déroule en pleine forêt, où notre héros tend quelques pièges aux soldats qui le poursuivent. Si quelqu'un a une explication, je suis preneur. En 1984 sort sur les écrans The Final Executioner, Final Executor en français ou dans une langue qui est censée lui ressembler, un film de Romolo Guerrieri, presque pas trop mal, ne serait-ce que parce qu'on y retrouve le regretté Woody Strode dans l'un de ses derniers rôles. L'histoire est celle d'un petit groupe de tueurs dont la principale distraction consiste à chasser et à tuer les survivants d'un quelconque désastre nucléaire. Une production dans l'ensemble assez banale, mais dont on va retrouver 3 ans plus tard les principales scènes d'action dans Urban Warriors de Joseph Warren, alias Giuseppe Vari. Cette fois, il y est question de 3 techniciens qui se trouvaient dans un abri souterrain au moment de l'apocalypse et qui, de retour à la surface, doivent affronter une meute de barbares motorisés. Et donc, faute de moyens, Vari intègre dans son récit un bon tiers du film de Guerrieri. Pratique et pas cher. Tellement pratique et tellement pas cher qu'en 1989, Vanyo Amici fait exactement la même chose pour son Bronx Executioner, qui emprunte à la fois à Final Executioner et à Urban Warriors. Autant dire qu'il n'a pas filmé grand-chose, à part quelques scènes de raccord avec l'une des actrices du premier film, le tout plaqué n'importe comment sur une histoire de cyborg tueur. À ce niveau de recyclage, on frise le génie. Après 1984, le post-apocalyptique italien disparaît presque totalement des écrans. Et il faut attendre 87 pour en voir une ultime incarnation, baptisée Interzone, réalisée par l'américain Deran Sarafian, dont c'est le premier film. Une tentative totalement foirée d'intégrer quelques éléments de comédie dans le genre, à travers l'histoire d'une poignée d'aventuriers qui viennent en aide à une bande de moines harcelés par d'horribles bikers. La réalisation est aussi léthargique qu'un après-midi d'été à Lisbonne par 45 degrés à l'ombre, et les acteurs sont plus mauvais les uns que les autres, y compris Bruce Abbott, le héros du réanimateur de Brian Usner, pas crédible un instant en héros madmaxien, et la surréaliste Tegan Clive, une blonde bodybuildée en robe de soirée qui interprète la méchante de service. Bref, partie de pas bien haut, la SF post-apocalyptique italienne a fini sa course dans les tréfonds de la série Z, à des profondeurs où les plus spéléologues des cinéphiles n'osent guère s'aventurer, et on les comprend. Pourtant, en cherchant un peu, on trouve pire que la science-fiction post-apocalyptique italienne, la science-fiction post-apocalyptique française, comme nous le verrons dans l'ultime volet de notre feuilleton estival.